cinquième et dernier épisode de notre série de grandes tables des idées européennes aujourd'hui, avec dans l'actualité le conservatisme est-il l'avenir de l'Europe? Dernier épisode donc aujourd'hui de cette série européenne avec le philosophe britannique Roger Scruton. Une carrière universitaire anglo-saxonne, des allers-retours dans les pays de l'ex-bloc soviétique pour y soutenir la fondation d'universités libres, théoricien du conservatisme et conservateur lui-même, pratiquant, voire fervent. Il est l'auteur ce printemps de L'erreur et l'orgueil, penseur de la gauche moderne aux éditions de l'Artilleur. Invité par son éditeur britannique à écrire un livre qui pourrait, je cite, porter secours aux étudiants contraints d'avaler la prose gluante de Deleuze. On y retrouve pêle-mêle le britannique Hobsbawm, l'américain Galbraith, l'allemand Habermas, les français Foucault comme Althusser et autres figures comme Gramsci, Saïd, Zizek ou encore Badiou que l'on reçoit, et je ne vais pas le dire trop fort, jeudi prochain autour de notre grande table. Partisan du livre au référendum de juin 2016, il se dit aujourd'hui déçu par la lenteur du processus, mais ne regrette en aucun cas son choix. Bonjour Roger Scruton.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et bonjour à votre voix française, Xavier Combes.
Bonjour.
Aujourd'hui aurait dû être la date butoir pour adopter le traité de retrait du Brexit au Parlement, initialement prévu le 29 mars, puis reporté au 12 avril, avant la demande d'un nouvel ajournement. Donc, les Britanniques vont peut-être devoir organiser des élections et participer au scrutin de mai. C'est aujourd'hui un scénario probable, plausible. Est-il pour autant souhaitable pour vous, Roger Scruton?
Personnellement, je pense que si le peuple vote en faveur du Brexit dans le cadre d'un référendum, eh bien le Parlement doit essayer de s'assurer que ce Brexit aura bel et bien lieu. Le problème, c'est que dans notre système, on ne croit pas à la valeur du référendum. On n'a pas de démocratie directe, nous avons une démocratie représentative. Et cela signifie que c'est le Parlement qui prend les décisions. Mais c'est le Parlement qui a demandé au peuple de prendre la décision. Et la réponse n'étant pas satisfaisante, prétendument insatisfaisante, et pourtant il faut la suivre. Donc nous voilà avec un véritable problème. Mais moi, je pars du principe que si l'on demande directement au peuple ce qu'il pense, on est obligé d'accepter le résultat. Sinon, cela fait montre de mépris envers le peuple. Et vous connaissez cette situation en France, peu ou prou. Les gens là-haut de la classe politique, nous comprennent-ils vraiment? Sont-ils vraiment nos représentants? Voilà ce que pose la question que pose également le peuple français.
Pour vous, le peuple n'est pas ignorant, Roger Scruton, c'est ce que vous nous dites. Pour autant, ne s'est-il pas, sur le moment, laissé guider par ses affects? Peut-être voudrait-il aujourd'hui, à tête reposée, revenir sur cette décision? Et si cette élection, si les Britanniques y participaient, était un deuxième moment de vérité, ce sera assurément pour certains l'occasion de prendre une longue et profonde respiration, de ravaler sa fierté et de réfléchir à nouveau. Ces mots, vous les avez peut-être entendus, ce sont les regrets de l'éditorialiste conservateur et eurosceptique britannique Peter O'Born dans une tribune parue le 7 avril sur le site Open Democracy, interrogé à ce sujet par la suite par Channel 4. Le Brexit a paralysé le système, la Grande-Bretagne est devenue la risée de tous.
Je suis très content d'admettre, et nous devrions tous l'être, parce que c'est un moment très trouble pour notre pays. Et je le fais humblement. J'ai eu tort, j'ai mal jugé, et aussi certaines choses ont eu lieu.
D'accord, mais sur le principe. Parce que beaucoup des Brexiteurs disent « on s'en fiche de tout ça ». Ce qui compte, c'est le principe, c'est la souveraineté.
Si la campagne du Brexit avait été celle d'une élection générale, ceux qui l'ont menée se seraient fait dégager alors qu'il est. Ils ont constamment produit des contre-vérités sur ce que serait le Brexit. Ils ont dit que l'accord serait facile, qu'il y aurait une quarantaine de deals, deux ou trois avec de petits pays. Les affirmations des pro-Brexit... Attendez, c'est très important. Ces affirmations se sont révélées être fausses.
Okay, so you want my response to that.
Oui, Roger Scruton. Non, je trouve. Est-ce que pour vous, cette élection, si elle a lieu aussi en Grande-Bretagne, peut être un deuxième moment de vérité?
Well, I don't take the kind of drastic view of it that Peter O'Born takes.
Moi, je ne partage pas le point de vue si ferme de Peter Oborn. Il y a quelques décennies, nous avons signé un traité. Et ce traité, nous avons décidé de nous en retirer. En quoi est-ce si étrange? Pourquoi s'agit-il d'une crise nationale? Il y a bon nombre de traités que nous avons signés dont nous nous sommes retirés. Le problème, c'est que la classe politique, nos représentants au Parlement, n'ont pas l'habitude de prendre des décisions, en partie en raison de l'Union européenne. Mais maintenant, c'est au Parlement britannique de prendre des décisions. Ils ne sont pas à la hauteur de la situation. C'est leur problème. Mais le peuple, lui, continue à poursuivre sa voie. Et la plupart des Britanniques se fichent bien de savoir si on fait partie de l'Union européenne ou non. Oui, en fait, j'ai le même point de vue que Charles de Gaulle. Il faudrait qu'il y ait un traité fort qui respecte les souverainetés nationales. La souveraineté nationale, c'est tout ce que nous avons, c'est ce qui assure la cohésion au sein d'une entité politique. Et c'est ça la racine du problème du Brexit. Les gens ne veulent pas renoncer à cela, mais ne pensent pas que ce soit aussi important que cela, contrairement à ce que pense M. Oborn.
Depuis deux, trois années, l'Europe, l'Union européenne, a connu une crise migratoire, Roger Scruton. Quelle réalité cette crise a-t-elle pour vous mise en lumière? Pourquoi cette... comment vous expliquez cette réaction de la
crise? It is the same question.
Il s'agit de la même question, en fait.
Individual nations can make decisions.
Les nations peuvent prendre elles-mêmes des décisions quant aux immigrés. Et les gens pensent fort justement que la classe politique n'a pas pris cette décision, pensant qu'il s'agissait du problème de l'Union européenne, mais c'est notre problème. Mais le peuple britannique doit pouvoir décider qui doivent être les immigrés, combien ils doivent être, mais cette décision a été confisquée par l'Union européenne. C'est un grand débat. De quel type d'immigrés voulons-nous? Voulons-nous des immigrés qui ne sont pas en phase avec notre civilisation éclairée chrétienne? Eh bien, voilà des débats qu'il faut avoir au niveau national et pas au niveau européen.
Pourquoi? Puisque ces questions se posent de la même manière dans beaucoup d'autres pays d'Europe, est-ce que les migrants n'ont pas été dans toute cette histoire un peu les boucs émissaires des divergences, des désaccords européens?
Je ne dirais pas que ce sont les boucs émissaires. Ce sont les gens ordinaires, les peuples d'Europe qui ont été les boucs émissaires. Nous sommes les boucs émissaires de la classe politique et on commence à en prendre conscience.
On a eu des réactions un peu partout importantes en Europe. Je vous propose d'écouter les mots du Premier ministre hongrois, Viktor Orbán.
Posons-nous la question de savoir pourquoi l'élite européenne, qui est aujourd'hui essentiellement libérale, a fait faillite. Pour ce qui me concerne, du moins, je cherche la réponse dans le fait qu'en premier lieu, elle a renié ses racines, et qu'au lieu d'une Europe reposant sur ses bases chrétiennes, elle a bâti l'Europe de la société ouverte. Dans l'Europe de la société ouverte d'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Les Européens sont interchangeables avec les immigrés. La famille est devenue un cadre de cohabitation variable selon les goûts. La nation, la conscience nationale, le sentiment d'appartenance à une nation sont considérés comme négatifs et comme devant être dépassés, et l'État ne garantit plus la sécurité en Europe. Être européen dans l'Europe libérale ne signifie rien, en réalité. Cette Europe ne donne aucune orientation. Elle n'est qu'une forme sans contenu. La démocratie libérale s'est donc transmuée pour devenir une non-démocratie libérale. Cela veut dire qu'en Occident, il y a le libéralisme, mais pas la démocratie.
Viktor Orbán, dont on dit aujourd'hui qu'il est l'un des tenants de ces démocraties illibérales,
Moi, je ne
soutiens pas l'idée de la démocratie illibérale. Je crois qu'au bout du compte, l'idée démocratique et une certaine forme de libéralisme reviennent à la même chose, la souveraineté de l'individu et la capacité qu'a l'individu à remplacer son gouvernement et à l'adapter à ses propres besoins. À l'évidence, la situation hongroise est tout à fait différente de celle que connaissent les autres pays d'Europe. C'est un petit pays sur la route de la migration et dont l'histoire est une histoire de migration assez adverse de la part du monde musulman. Orban, lui, il s'en porte un petit peu trop, disons, parce qu'il a tendance à mélanger tous les problèmes sans pour autant montrer les solutions.
Ça, c'est le cas de Viktor Orban. On entend plusieurs voix qui s'élèvent de toute façon dans ce sens-là un peu partout en Europe. J'aimerais revenir sur ce que vous évoquiez, ce qui fait le socle aujourd'hui de nos civilisations, Roger Scruton. Est-ce que le passé chrétien de l'Europe, ses racines qui font polémique aussi, controverse aujourd'hui, en tout cas en France, ça doit rester pour vous un ciment pour l'avenir?
Yes. I think it's one of the major questions confronting not.
Oui, c'est une des grandes questions à laquelle est confrontée la Grande-Bretagne, mais surtout la France. Quel est notre rapport à l'héritage chrétien? Ça fait partie de notre culture, même si on n'a pas la foi. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une immigration musulmane de grande ampleur. Comment voyons-nous notre identité chrétienne? Est-ce que cela fait partie de l'identité européenne ou est-ce que c'est simplement un choix, une option que l'on peut mettre de côté? Moi, je dirais que ça fait partie de l'identité européenne et les Lumières, en fait, sont une déclinaison du christianisme. C'est pourquoi les Lumières, on ne les trouve nulle part ailleurs. Donc, nous devons être fidèles envers cet héritage chrétien, même si nous devons rester quelque peu sceptiques à son endroit. C'est tout à fait normal dans le monde de la politique. On peut être fidèle à une idée, mais sans pour autant renier quelques doutes.
Ça fait partie des erreurs de ces intellectuels de la gauche moderne dont vous parlez dans cet ouvrage qui paraît en France, L'erreur et l'orgueil, aux éditions de l'Artilleur. C'est une de leurs erreurs d'avoir coupé, presque renié cet héritage-là pour vous?
Exactly, I would say yes.
Oui, tout à fait. Mais c'est intéressant à noter. Bon nombre de grands penseurs de gauche de l'après-guerre qui sont fortement influencés par le christianisme, Sartre en particulier. C'est une espèce de théologie négative inspirée par l'héritage chrétien. Et même Monsieur Badiou, par exemple. Chez Monsieur Badiou, on retrouve les vestiges d'une idée profondément chrétienne. Et ses propos sur Saint Paul, son identification à Saint Paul, puisent dans des origines chrétiennes et en même temps un commentaire marxiste-maoïste. Et sa philosophie ne serait pas logique sans le christianisme. Et c'est vrai pour la plupart des penseurs de gauche que je décris dans mon ouvrage.
Nul n'a perçu aussi clairement que Platon, le totalitarisme réformé, qu'un argument change de nature quand le fardeau passe de celui qui veut mettre en place un nouvel ordre des choses à celui qui souhaite le statu quo, écrivez-vous. Comme Platon, j'ai tenté dans ce livre de remettre la responsabilité de la discussion entre les mains de ceux qui l'ont initié. Et comme Platon, je sais que ce fardeau ne sera jamais accepté. Le conservatisme, ce courant de pensée que vous avez, non pas théorisé, mais sur lequel vous avez travailler à l'expliquer, travailler aussi à le nourrir dans toute son histoire et ses dimensions, n'aurait plus vraiment la cote à vous lire aujourd'hui, et ce depuis une trentaine d'années. Vous ne surjouez pas un peu trop parfois, Roger Scruton, la posture victimaire? Est-ce que les idées conservatrices ne sont pas, au fond, dominantes dans la société?
Very interesting observation.
C'est une observation fort intéressante. Personnellement, je ne me considère pas comme une victime, ou je ne considère pas que le mouvement conservateur soit victime. Mais on peut dire que c'est toujours vers les conservateurs que l'on pose la question de savoir comment on peut défendre ceci ou cela envers la société. Mais on peut rétorquer, comment allez-vous remplacer les mots de la société? Et cela va à l'encontre de toute cette attitude gauchiste. En fait, c'est une attitude fondamentalement nihiliste. Elle veut détruire ce que nous avons sans idée claire de ce qu'il y a en remplacement. Ce que nous avons, c'est précieux. Nous avons l'état de droit, nous avons la sécurité, la propriété, la sécurité pour la famille, pour nos croyances. Nous sommes libres de les avoir et cela fait partie d'une civilisation qui est la nôtre. Et à mon avis, c'est aux critiques de s'exprimer et d'expliquer en quoi ils peuvent remplacer les prétendus maux dont nous souffrons.
C'est un livre de l'ancien monde, diraient certains, celui que vous avez écrit, L'erreur et l'orgueil, penseur de la gauche moderne, à vous interroger qu'est-ce que la gauche, puis qu'est-ce que la droite, alors que l'une comme l'autre n'existe plus aujourd'hui. Oui. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Il n'y a plus que des progressistes et des populistes nationalistes, en tout cas en Europe, tel que le défend aussi et l'a formulé Emmanuel Macron, non ?
You're absolutely right. I wrote this book.
Vous avez tout à fait raison. J'ai rédigé ce livre au début des années 80, lorsque le paysage était radicalement différent. Mais pour autant, mon livre n'est pas inutile, je pense, car la position de gauche revient sous différentes formes. Ici, vous avez Mélenchon. Nous avons Jeremy Corbyn. Il y a des tentatives constantes de reformuler cette attitude radicalement destructrice envers nos institutions. Donc, il sera toujours utile de tenir ces propos. Mais évidemment, la sémantique a changé. Mais je suis comme cela.
Avant d'en venir à la définition, aux différences entre la droite et la gauche, si je vous fais entendre cette voix que vous connaissez bien, en 1979, celle de Margaret Thatcher, dites-moi où vous la classez.
May I make a few comments first? One of the difficulties here.
L'une de nos difficultés, en l'occurrence, a été d'exprimer clairement la nature du problème. On ne demande pas un seul penny pour la Grande-Bretagne à la communauté européenne. Ce que nous demandons, c'est que nous soit rendu une grande partie de notre propre argent, au-delà de notre contribution à la communauté, qui est couverte par ses rétributions. Globalement, pour 2 livres de contribution, nous récupérons 1 livre, ce qui donne une contribution nette de 1 000 millions de livres que nous verserons à la communauté européenne l'an prochain et une augmentation à venir. C'est à propos de ces 1 000 millions que nous avons commencé à négocier, car nous voulons en récupérer la majeure partie. Mais ça ne veut pas dire que nous demandons de l'argent à la communauté. Nous lui demandons de nous rendre notre propre argent. Et j'ai dit fréquemment, regardez, nous qui comptons parmi les membres les plus pauvres de la communauté, nous ne pouvons pas continuer à remplir ces caisses. On vous signale qu'on ne peut plus se le permettre.
L'argument économique avancé aussi là par Margaret Thatcher en 1979, qui a quand même aussi joué dans le choix des Britanniques de quitter l'Union européenne par le Brexit. Aujourd'hui, Margaret Thatcher, vous diriez qu'elle est, elle est quoi ? Populiste ? Eurosceptique ?
Populiste, c'est un terme nouveau, inventé pour remplacer la dichotomie gauche-droite. Ce serait formidable si la seule question n'était qu'économique. Qui paye quoi et combien ? Ce serait formidable, mais la question n'est pas économique, c'est une question identitaire. À quoi appartenons-nous ? À quoi nous identifions-nous ? C'est cela qui est en jeu dans le cadre du vote du Brexit. C'est pourquoi On utilise le mot populiste parce qu'il est lié à ce désir d'identité. Ce n'est pas l'apanage des Britanniques, c'est la même chose en France. Et on en a parlé lorsqu'on a évoqué l'immigration. Qui sommes-nous ? Voilà des questions. Et nous, nous avons l'équivalent de ces questions.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous, Roger Scruton, vous seriez pour une dissolution pure et simple de l'Union européenne, pour que l'Europe disparaisse, ou pour une refondation de l'Europe sur d'autres bases, et notamment peut-être autour de cette Europe des patries ou des nations, comme l'appelait Charles de Gaulle, ou la cité l'a nommé Charles de Gaulle, que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire une Europe qui préserverait tous les sentiments nationaux.
You're absolutely right. I don't want to dissolve.
Non, je ne suis pas en faveur de la dissolution de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une chose extrêmement précieuse et utile. C'est un système de coordination pour les peuples européens. Mais je suis néanmoins d'accord avec de Gaulle pour dire que nous ne devons pas renoncer pour autant à la souveraineté nationale. Et l'élite européenne a été forgée par le système existant. Et cette élite n'a pas suffisamment d'imagination pour trouver un autre système, bien que c'est assez évident que lorsque l'on regarde la Grèce, l'Italie ou la Grande-Bretagne, il est évident qu'il faut faire quelque chose. Mais cette élite n'en est pas capable.
Roger Scruton, quand dans les œuvres de Lacan, Deleuze et Althusser, écrivez-vous, la machine à non-sens commença à pondre ces phrases incompréhensibles auxquelles il était impossible de comprendre quoi que ce soit, si ce n'est qu'elles avaient toutes le capitalisme pour cible, il sembla que le rien avait enfin trouvé sa voie. Je vous propose quand même d'écouter les mots de Gilles Deleuze, extrait de son abécédaire à la lettre G, il y avait gauche, ça semble assez clair.
C'est un phénomène de perception. On perçoit d'abord l'horizon. Tu vois d'abord à l'horizon. Hein. Et tu sais que ça ne peut pas durer. C'est pas possible. Que ces milliards de gens qui crèvent de faim, non, c'est, ça peut durer encore 100 ans, j'en sais rien, mais faut pas charrier cette injustice absolue. C'est pas au nom de la morale, c'est au nom de la perception même. Que donc, si on commence par le beau, par ces scènes de gauche, par savoir donc, et par d'une certaine manière, appeler de ses voeux, et considérer que ce sont là les problèmes à régler. Et c'est pas se dire simplement, ah ben, il faut diminuer la natalité, parce que c'est une manière de garder les privilèges de l'Europe, c'est pas ça. C'est vraiment trouver les arrangements, trouver les agencements mondiaux qui feront que, donc, en effet, les problèmes du tiers-monde, être de gauche, c'est savoir que les problèmes du tiers-monde sont plus proches de nous que les problèmes de notre quartier. C'est vraiment une question de perception, c'est pas une question de belle âme, tout ça. Non, c'est ça d'abord être de gauche pour moi.
Là, on a un début de définition de la gauche, en tout cas de ce qui la différencie de la droite, Roger Scruton. Le sentiment d'habiter cette grande communauté humaine, et pas simplement la petite communauté des nations, qui disait déjà « not in my backyard ».
If it were true that the left really did inhabit...
La gauche habitait véritablement le monde. Et si la gauche l'a protégé, ce monde contre le petit monde des immersions égoïstes, eh bien je serais en faveur de la gauche. Mais dans la réalité, comme vous pouvez le voir dans la sémantique, cela représente le petit monde de l'élite intellectuelle parisienne. Ça n'a rien à voir avec le tiers monde que l'on évoque simplement pour boursoufler un petit peu l'image que la gauche se fait d'elle-même. Et c'est de ça qu'il s'agit dans cette sémantique. C'est cela, mon propos critique envers Althusser. Ce n'est pas le langage du peuple. Il n'y a pas de connaissance de ce qu'est le peuple. C'est le langage de l'élite parisienne, des intellectuels parisiens, ces intellectuels de gauche.
Ces intellectuels parisiens ne se reconnaissent pas ou ne parlent pas la même langue que le peuple. Et le peuple, dites-vous, Roger Scruton, ne se reconnaît pas non plus dans ces intellectuels.
They don't. Of course, it's a very odd thing that.
Non, c'est assez étrange que des gens ordinaires peuvent lire avec plaisir des idées sérieuses, c'est merveilleux. Et je dirais qu'il y a une grande différence entre un Sartre et un Foucault, grands écrivains, qui savent manier la langue de la communication pour présenter des idées intéressantes, et des gens comme Deleuze, Althusser, et consorts, et Lacan, qui utilisent une espèce de langue nécromantique pour cacher leur propre égoïsme derrière un voile de mots. Donc, un Français ou un Anglais de ma génération peut lire Sartre et reconnaître de l'humanité. Voilà des véritables êtres humains qui traitent les véritables questions auxquelles sont confrontés les êtres humains, même si on n'est pas d'accord. Hein. Mais lorsque l'on lit Deleuze avec ce même état d'esprit, on n'arrive pas du tout à cette satisfaction.
Les intellectuels de gauche ont, pour vous, les Français notamment, une obsession, c'est le mot capitalisme. Et derrière ce mot, tout passe avec cette idée de lutter contre le capitalisme ou le nouveau capitalisme, etc. Roger Scruton, pourquoi vous y voyez-vous des abstractions dans ces souhaits, ces désirs d'émancipation et de justice sociale qui semblent être l'objectif recherché et poursuivi par ces générations d'intellectuels de gauche?
Well, I think actually it's not the word capitalism that is most important.
Le mot capitalisme qui compte le plus, c'est le mot bourgeois. Autrement dit, le citoyen français ordinaire contre qui je m'identifie, moi, intellectuel. Ça, c'est le thème que l'on retrouve chez Sartre, Foucault, Lacan, jusqu'à Badiou.
It is not really about social justice.
Il ne s'agit pas véritablement de justice sociale. Il ne s'agit pas de sauver les gens en bas de la société. Il s'agit plutôt de ressentiment. Ressentiment envers ces personnes qui ont des attitudes bornées. Ces attitudes, pourtant, qui font tourner le monde.
Vous avez évoqué Althusser, Adorno, Sartre, Badiou. Qui sont aujourd'hui pour vous les nouveaux penseurs de la gauche moderne?
It's a very good question. I'm looking for
question. Je les cherche. Je les cherche pour pouvoir les égorger, mais je ne les trouve pas.
Vous avez dit égorger?
Oui.
La traduction est juste.
Oui,
vous opposez à eux, en tout cas. Quelle définition donne de la gauche Emmanuel Macron? Je vous propose un rapide retour sur parole. C'était en mars 2017 dans l'émission présidentielle Candidat au tableau, où des élèves interrogeaient le candidat à l'élection, celui d'En Marche en l'espèce, et il répondait en quelques mots ce qui fait pour lui toute la différence entre la gauche et la droite.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer au tableau la différence entre la droite et la gauche avec une craie et en une minute, s'il vous plaît?
Top.
Ok, alors, donc la droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française, qui a son histoire aussi, pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. Que les gens aient les mêmes droits, tu vois. Là, c'est que les gens soient libres. Il y en a qui vont réussir, d'autres non. Tant pis. Là, c'est que les gens soient égaux, mais ils sont pas forcément libres. C'est pour ça que moi, je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté. Parce que c'est quoi la devise française?
Liberté, égalité, fraternité.
Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top.
Liberté contre égalité, Roger Scruton.
I think this is a perfectly possible way of expressing one part of the
d'expliquer une partie du conflit qui sépare l'ancienne gauche de l'ancienne droite. Mais moi, je dirais que la droite, c'est la tradition et l'héritage. La droite, c'est le fait d'avoir une relation d'amour envers quelque chose qui vous a été donné. Et ce qui vous a été donné comporte la liberté, comporte également la compassion. Mais ce n'est pas réductible à un simple slogan. Les Français ont un appétit féroce pour les slogans. On vient d'en avoir une preuve éclatante. Le slogan est fort utile pour résumer la politique en quelques mots. Mais la politique, ce n'est pas que des slogans.
Vous écrivez dans l'erreur et l'orgueil avoir recherché en vain dans les écrits de plusieurs intellectuels dits de gauche, de Badiou à Adorno jusqu'à Thompson, une quelconque description de la façon dont l'égalité des êtres défendue dans les manifestes qu'ils écrivaient devait être obtenue. Et vous n'avez pas trouvé. Vous racontez aussi, dans les écrits d'Adorno, avoir trouvé, lu, cette alternative au système capitaliste qui était une utopie. Et vous êtes réjoui de l'emploi par lui, par ce penseur, de ce terme d'utopie. Parce que ça voulait bien dire qu'en fait, il n'existait aucune alternative réelle.
Right.
Mm-hmm. Aujourd'hui, de quel héritage politique, vous, en termes intellectuels, vous vous revendiquez, Roger Scruton ?
Well, that's a very good question. Like all
intellectuals,
I'm always searching.
Tous les intellectuels, je suis à la recherche de ce que je pourrais dire au monde. Voici ce qui est important. Voici la chose précieuse. Mais c'est une quête, et je ne veux pas faire semblant d'avoir trouvé. Mais je sais qu'il y a des auteurs qui décrivent certains aspects de la civilisation européenne qui sont d'une très grande valeur. Edmund Burke, par exemple, Chateaubriand, et de Tocqueville aussi. Ce sont de grands auteurs qui ont compris une bonne partie de ce qui nous a été donné. Et c'est un petit peu cela, ma position. Chercher chez ces auteurs-là les choses auxquelles nous devons nous accrocher, ce sont les objets de notre amour.
Vous n'avez pas trouvé de double contemporain à vous, aujourd'hui, de l'autre côté de la Manche, c'est-à-dire ici en France? Vous n'avez pas votre alter ego?
J'ai des amis en France. Il y a beaucoup de gens qui pensent selon ce que je viens d'exprimer, mais il y a un scepticisme envers cette ancienne position anti-bourgeoise. Mais trouver des gens qui disent exactement la même chose que moi, je ne sais pas. J'ai lu des choses récemment, écrites par des amis,
qui enseigne d'ailleurs du côté de chez vous à Londres.
Eugénie Bastier, who say things which I spontaneously agree with.
Voilà, des auteurs.
They tend to be women. It's interesting.
Et aussi François Sam sont des femmes d'ailleurs, en l'occurrence, notamment parce qu'elles ont une compréhension, une sensibilité de ce qui est en jeu dans le monde, tout ce processus de reproduction.
Pour réparer le mal que ces penseurs de gauche ont fait au monde et à nos sociétés, ainsi que les politiques de gauche, Roger Scruton, vous dites, et vous l'évoquiez à l'instant, qu'il faudrait remettre de l'amour dans tout cela. Surtout qu'il y aurait un besoin urgent de spirituel et de culture pour repenser nos manières de vivre. Comment ça pourrait se traduire ?
How can it translate into French, you mean?
Non, dans les faits. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? D'où, où est-ce qu'il vous le percevez, ce besoin de spirituel ou de spiritualité et de culture?
All of us have this need.
Nous avons tous ce besoin. Nous sommes tous à la recherche de cela. On trouve cela chez nos amis, dans l'enseignement, que l'on en soit enseignant et étudiant. Je retrouve cela dans la grande tradition de la musique classique. Et c'est également présent dans la merveilleuse tradition du roman français, jusqu'au monde moderne. Cela nous entoure, on baigne dedans, mais nous devons nous montrer humbles dans notre quête.
Merci beaucoup à vous, Roger Scruton, d'être passé autour de cette grande table. Merci.
Merci à vous aussi.
Merci à Xavier Combes pour sa traduction et à toute l'équipe de la Grande Table pour cette belle semaine européenne qu'on clôturera demain à la Sorbonne dans son grand amphithéâtre à 16h30 pour notre forum France Culture sur l'Europe avec un entretien de clôture avec l'écrivain Laurent Godet qui publie un poème inachevé, Nous, l'Europe, banquet des peuples chez Actes Sud. Entretien qui sera diffusé vendredi prochain dans la Grande Table. Et puis ce dialogue sera précédé de 4 tables rondes ronde à partir de 10h, animée notamment par mes camarades du Grain et des Chemins. À la préparation et à la programmation, Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, Jean-Christophe Brianchon, Oriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse d'Antoine Suzarelli et de Mathilde Tonfourcade. À la réalisation, toute cette semaine, Marie Placet et Milena Hellig. Très bonne journée et très bel après-midi sur France Culture.